Tente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'une des manifestations de la maladie, parfois un symptôme, un élément qui permet de poser un diagnostic. Et pourtant, elle est encore loin d'être traitée correctement. Elle, c'est la douleur, des douleurs fréquentes, puisqu'en France, 12 millions de personnes affirment souffrir de douleurs chroniques et pourtant mal prises en charge, lorsque l'on sait qu'une très large majorité d'entre elles, 70%, ne reçoivent pas le traitement approprié pour s'en débarrasser vraiment. La douleur, ou plutôt les douleurs, elles sont variables, aussi bien en termes d'intensité, de fréquence que de localisation. Ces douleurs qu'il faut d'abord définir, identifier, comprendre avant de déterminer quelles pistes thérapeutiques seront les plus appropriées. Et si certaines sont insupportables et permanentes et peuvent gâcher la vie, d'autres douleurs ont une fonction d'alarme et se révèlent utiles et même indispensables pour protéger l'organisme de certains risques. Comprendre ces douleurs pour mieux les prendre en charge, c'est ce que vous proposez dans l'ouvrage que vous venez de signer. Docteur Didier Boissira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, directeur de recherche à l'INSERM, directeur de l'unité de recherche de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Et votre livre, il s'intitule « L'antidouleur » et il est publié aux éditions du Cherche Midi. Des douleurs diverses et parfois même complexes à expliquer. Nous serons en ligne avec Carole Robert, elle est présidente de l'association Fibromyalgie France. En deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne avec la Côte d'Ivoire, avec le professeur Aïe François Akani, chef du service de neurologie au CHU de Bouaké, chef du département des maladies du système nerveux à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Davantage de moyens pour plus de dignité ce mardi en France. Grève unitaire qui touche le secteur de l'hébergement des personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Alors comment expliquer cette mobilisation aujourd'hui? On posera la question tout à l'heure à Catherine Sarrazamoine, visiteuse bénévole de malades. Et puis le numéro de Priorité Santé pour poser vos questions et témoigner, c'est toujours le 33 1 84 22 75 75. Docteur Didier Boissira, dans votre livre « L'antidouleur », vous expliquez et vous incitez tout au long de l'ouvrage sur le caractère pluriel des douleurs, avec donc comme préalable indispensable à leur prise en charge, la capacité de les identifier, savoir pourquoi le patient vient consulter. Et ces douleurs, vous distinguez justement qu'elles sont justement très différentes. Il y a celles qui nuisent et celles qui protègent.
Oui, exactement. Il est important de comprendre que la douleur que tout un chacun connaît, la douleur qui nous fait retirer la main d'une plaque chaude, la douleur associée à une fracture, à un accident ou même une rage de dents, cette douleur-là, elle est plutôt utile puisque c'est elle qui va nous permettre de protéger l'organisme, de nous protéger face à des agressions potentielles de l'environnement. Donc cette douleur-là, en général, soit on ne la traite pas si elle est de courte durée, soit on va la traiter avec les antidouleurs habituels que tout le monde connaît. Si elle dure trop longtemps, c'est pour ça qu'on vous traitera une rage de dents, le mal de gorge ou un petit lumbago. En revanche, il y a un autre type de douleur, c'est celle-là qui pose de nombreux problèmes, c'est ce qu'on appelle la douleur chronique. C'est quand la douleur persiste dure et par définition, on parle de douleur chronique, quand c'est une douleur quotidienne ou quasi quotidienne qui dure au moins 3 mois. Alors ces douleurs chroniques sont très différentes des douleurs aiguës ou des douleurs normales, puisque ces douleurs-là n'ont plus du tout de fonction de protection de l'organisme, ne sont plus des symptômes d'une maladie, c'est la maladie elle-même. La douleur devient elle-même le problème, la maladie, et qu'il faut traiter pour elle-même. Donc on est face à des douleurs très différentes et on va très souvent être amené à utiliser d'autres types de traitements que les antidouleurs habituels pour prendre en charge ces douleurs dites chroniques, dont il existe d'ailleurs plusieurs types.
Ça veut dire que par exemple un malade peut consulter un spécialiste pour sa maladie en tant que telle, puis aller voir un spécialiste de la douleur pour traiter cette douleur liée à cette pathologie.
Exactement, une pathologie comme l'arthrose peut donner des douleurs. Les douleurs peuvent être aiguës, c'est-à-dire durer un certain temps. Si elles durent trop longtemps, il y a d'autres mécanismes qui vont se mettre en jeu. Ces mécanismes vont être liés notamment à des modifications dans le système nerveux. Le système de détection de la douleur va être lui-même dysfonctionnel, va fonctionner de façon anormale, et on est donc là face à des douleurs qui sont complètement différentes. Il va falloir traiter la douleur, le système d'alarme en quelque sorte pour lui-même.
Alors justement, pour bien comprendre la nature de ces douleurs, il faut se faire une idée du mode de transmission. Docteur Didier Boissira, c'est une information qui suit un parcours bien précis dans le corps et qui va provoquer toute une série de réactions dans différents organes.
Oui, voilà, on connaît assez bien le parcours que prennent les messages douloureux pour aller de la périphérie, de la peau par exemple, des articulations, des muscles, des viscères, pour aller justement, il existe au niveau de tous ces tissus des petits capteurs de douleur qui vont permettre de détecter toutes les informations potentiellement dangereuses pour l'organisme et donc pour pouvoir déclencher le signal d'alarme. Et ce signal d'alarme est déclenché par des messages qui vont passer d'abord dans la moelle épinière, puis vont monter vers le cerveau pour activer, mettre en jeu plusieurs régions du cerveau. Donc ça, c'est la douleur signal d'alarme, mais cette douleur signal d'alarme, encore une fois, on ne cherche pas forcément à la traiter puisqu'elle peut être utile, mais le système d'alarme lui-même peut dysfonctionner. Notamment, nous savons que dans notre système de détection de la douleur, il existe des filtres, des systèmes de régulation, des moyens de réguler cette douleur en l'augmentant ou en la diminuant. Et ces systèmes de régulation, de modulation peuvent eux-mêmes être altérés. Et c'est ce qui est la cause de beaucoup de douleurs. Donc la douleur, on connaît les mécanismes de la douleur, je dirais, simple, la douleur normale. On connaît moins bien les mécanismes de la douleur chronique.
Alors, dans votre livre, vous utilisez fréquemment le terme de nerf nocicepteur. Il n'est pas forcément connu, ce mot, du grand public, docteur Didier Boissira. Qu'est-ce que ça signifie exactement, un nerf nocicepteur?
Alors, on parle de nocicepteur, c'est-à-dire de récepteur à la nocivité, aux stimulations nocives, tout ce qui est nocif, donc qui est susceptible de créer une douleur, susceptible d'être dangereux pour l'organisme. Donc, on appelle nocicepteur les petites fibres nerveuses qui sont justement les capteurs, les détecteurs de tous signaux potentiellement nocifs pour l'organisme. C'est ce qu'on appelle donc des récepteurs de la douleur ou des nocicepteurs.
Alors justement, vous distinguez trois grandes familles de douleurs chroniques en fonction du lieu de perception dans l'organisme de ces stimuli.
Exactement, on distingue trois grands types de douleurs chroniques en fonction du site de la lésion. On parle de douleurs inflammatoires ou de douleurs nociceptives, justement, quand c'est le système de la douleur est lui-même extrêmement stimulé, activé de façon anormale pendant longtemps, notamment à cause de l'inflammation. Donc l'exemple le plus caractéristique de ces douleurs dites nociceptives, c'est finalement l'arthrose. Il y a d'autres types de douleurs chroniques, et le deuxième type, qui est également très fréquent, qui représente au moins 25 à 30% des douleurs chroniques, c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Dans ce cas-là, c'est le système de détection de la douleur, les fameux nocicepteurs et les autres systèmes dans le cerveau qui sont impliqués dans la détection de la douleur, qui sont eux-mêmes touchés par la maladie ou par une lésion. Et donc là, on a des douleurs qui se présentent sur le plan de leur expression de façon très différente. Les mots qui sont utilisés, par exemple, pour décrire ces douleurs ne sont pas les mêmes. Et ces douleurs, on renvoie à des mécanismes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, le traitement qu'on va proposer aux patients ne sera pas le même non plus. Par exemple, ces douleurs neuropathiques ne répondent pas aux antidouleurs que tout le monde connaît, paracétamol, anti-inflammatoire. On utilisera d'autres classes de molécules pour traiter ces patients. Et enfin, un troisième type de douleur qui est important, très important à connaître, c'est un type de douleur où on ne retrouve pas de lésion. Donc le patient, les médecins peuvent faire tous les tests qu'ils veulent, tous les examens, toutes les radios, tous les scanners, on ne trouve pas de lésion, pas de maladie. Et pourtant, les patients souffrent de façon quotidienne, le plus souvent, de façon importante, avec un important retentissement sur leur qualité de vie, et ces douleurs sont ce qu'on appelle des douleurs dysfonctionnelles, car on considère qu'elles sont liées pour la plupart à un mauvais fonctionnement des systèmes de régulation de la douleur qui, au lieu de diminuer la douleur, comme c'est leur rôle habituellement, dans ces cas-là, vont l'augmenter. Donc, ces patients vont devenir hypersensibles à toute stimulation.
Avec, par exemple, comme maladie pour ces douleurs dysfonctionnelles.
Voilà, une des principales maladies dans ce cadre, c'est la fibromyalgie. Mais il y en a d'autres. Le syndrome du côlon irritable, par exemple, est aussi rentre également dans ce cadre. Et puis, des douleurs, par exemple, beaucoup plus moins bien connues du grand public, mais comme des douleurs de la bouche, hein, qu'on appelle des stomatodynies ou des glossodynies. Des patients qui ont des douleurs, des brûlures de la langue et qui peuvent durer des années et qu'on ne comprend pas bien. Et on pense aujourd'hui qu'elles sont liées, elles aussi, à ce type d'altération, de défaillance dans les systèmes de régulation de la douleur.
Alors, docteur Didier Boissira, si vous le voulez bien, on va s'arrêter sur la fibromyalgie que vous décrivez comme des douleurs dans tout le corps, hein, hypersensibilité à la pression des muscles, articulations, tendons, puis toute une série d'autres symptômes. On en parle avec vous. Carole Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous présidez l'association Fibromyalgie France. Comment décrire davantage ces douleurs associées à votre maladie ?
Alors la fibromyalgie, on l'appelle la maladie du mal partout et elle demeure complexe à expliquer pour le patient parce que les douleurs fluctuent dans le temps, donc elles se déplacent, elles changent d'intensité, elle est imprévisible et s'ajoutent des troubles complexes également comme la fatigue chronique, un sommeil non réparateur, des céphalées de tension, des troubles intestinaux. Donc c'est complexe et c'est une maladie qui est imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas projeter. On ne sait jamais quand les douleurs vont devenir intenses, d'une heure à l'autre, d'un jour au lendemain. Donc voilà la complexité de la fibromyalgie.
Et ces douleurs, vous les traitez comment, Carole Robert ?
Alors, les traitements ont beaucoup changé depuis 15 ans. Initialement, on nous donnait beaucoup de médicaments. Maintenant, les recommandations visent plus particulièrement à proposer aux patients de bouger, de faire de la relaxation, de la musicothérapie. Si j'ai bien compris, je ne suis pas médecin, il s'agit de détourner l'esprit de la douleur de façon lente, mais probablement qui porte ses fruits actuellement.
Est-ce que ces traitements vous ont soulagé ?
Oui, moi j'ai essayé. Moi je souffre de douleurs chroniques depuis 50 ans, donc depuis la puberté. Et j'ai tout essayé. Et effectivement, pendant 4 ans, j'ai pratiqué toutes les techniques que préconise Dr Boissira. Je n'ai pas compris au début que cela améliorait mon état et c'était une évidence. Je ne suis pas guérie, mais je vis mieux la maladie. Je suis moins obsédée par la douleur surtout.
Ça veut dire vivre avec. Alors justement, cette maladie assez mystérieuse, hein, beaucoup de questions en suspens sur son origine, avec des fois, Carole Robert, le sentiment que l'on n'est pas pris au sérieux.
Oui, ça a été très longtemps et ça l'est encore. Moi, j'interviens dans la formation des médecins à l'université, en formation continue, donc je trouve ça excellent, mais on touche 30 à 40 médecins chaque année. Pendant longtemps, on a même été renié. Ça commence à changer, docteur Boissira, vous ne direz pas le contraire. Il y a une meilleure compréhension, en tout cas il y a une écoute et on commence à nous croire. Mais pour les malades, individuellement, c'est encore trop lent.
Justement, votre association, Carole Robert, tente de faire reconnaître votre pathologie à la mesure de la souffrance qu'elle entraîne. Au-delà de la formation des soignants auprès du public, quelle action peut permettre justement une réelle perception des douleurs engendrées par cette maladie ?
Il y avait plusieurs reconnaissances à obtenir. C'était un choix stratégique lors de notre création en 2001. Le premier choix, c'était d'obtenir la reconnaissance institutionnelle, tant au niveau européen que national. Et nous avons obtenu quand même des reconnaissances, telles celles de la Haute Autorité de Santé, le ministère, la CNAMTS au niveau de la prise en charge des soins. Il n'y a pas, à ce niveau-là, en tout cas, pas de souci majeur. Le plus compliqué fut ensuite la reconnaissance médicale, mais actuellement, notre présence dans les congrès ou dans les formations, on se rend bien compte que les médecins nous comprennent mieux. Et puis la plus compliquée, c'est la reconnaissance sociale, c'est-à-dire le 100%, l'invalidité qui est du cas par cas, et pour le malade bien complexe à expliquer au corps médical et aux socioprofessionnels.
Merci beaucoup Carole Robert pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Fibromyalgie France.
Priorité santé sur RFI.
Et dans Priorité Santé, c'est le moment de donner la parole aux auditeurs. Beaucoup d'appels pour parler notamment de douleurs dorsales, de migraines aussi, en mal à la tête, comme on dit communément. On va prendre tout de suite en ligne Eladji, il est en ligne de Ziguinchor, au Sénégal. Bonjour Eladji.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Bien, je vous ai contacté c'est pour vous poser quelques questions liées à ma santé. Pertinence du thème de l'émission, alors que j'en souffre depuis plusieurs années, d'une migraine chronique. Je prends plus de 300 mg de tramadol par jour. Je ne parviens jusque-là pas à contenir la douleur, alors que j'ai été soumis à plusieurs examens médicaux qui, au début, n'ont rien révélé. Mais à partir du mois de juin 2017, il a été formellement établi que je souffre d'une dyscopathie à la suite d'une IRM du canal rachilombaire. Alors, du coup, on m'a mis sous des anti-inflammatoires que j'accompagne de tramadol. Mais jusque-là, ça ne me soulage pas. Je suis obligé de prendre à 6 heures d'écart du tramadol 100 mg LP, et qui ne soulage pas du tout la douleur qui est là présentement, à tout moment, qui handicape mon travail, qui bougie ma vie d'ailleurs.
Merci Eladji pour ce témoignage. Docteur Didier Boissira, Eladji parle d'une dyscopathie, c'est donc quelque chose qui touche le dos, si je ne m'abuse, et un lien avec la migraine, je ne sais pas.
Alors dans son cas, il est difficile, bon, toujours difficile de se prononcer sans avoir vu le patient ou d'avoir vu les examens complémentaires. Néanmoins, bon, il peut y avoir un lien entre des dyscopathies, donc une atteinte des disques, hein, entre les vertèbres au niveau cervical, donc au niveau du cou, et des migraines. Mais dans le cas d'Eladji, je dirais que peut-être certains de ces maux de tête, certains de ces migraines sont en fait entretenus par les médicaments eux-mêmes. Il prend, il nous le disait, beaucoup de tramadol, plusieurs centaines de milliers de milligrammes par jour depuis très longtemps. Or, on sait que quand on en prend trop de ces médicaments, qui sont par ailleurs de bons médicaments de la douleur, mais quand on en prend de trop, eh ben, ils peuvent eux-mêmes déclencher des maux de tête. Donc, ils déclenchent des maux de tête. Ce qui va se passer, c'est qu'on prend le médicament, ça calme un peu la douleur, mais la douleur revient très rapidement, voire un peu plus forte qu'elle n'était auparavant. Donc, on reprend du médicament, le traitement, et on rentre ainsi dans un cercle vicieux très rapidement. Qui s'installe. Et donc, on est, un des objectifs du traitement, finalement, ce serait peut-être chez Eladji, mais bien sûr, il faut en discuter avec son médecin traitant, ça serait peut-être de voir si on peut réduire sa consommation de médicaments. Et à mon avis, ça devrait déjà améliorer en bonne partie ces maux de tête. Et on peut associer éventuellement d'autres types de traitements non médicamenteux qui peuvent être tout à fait aussi utiles dans ce cas-là.
Et Eladji, ce conseil peut-être revoir l'ordonnance, la prescription que vous a faite votre médecin. Merci beaucoup pour cet appel de Ziguinchor. On va reprendre tout à l'heure après le point d'actualité d'autres auditeurs en ligne. Mais d'abord, cette question des traitements des médicaments. Vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de molécules, énormément de noms qui circulent. Les malades sont familiarisés avec ces noms. On en parle un peu comme des noms propres quasiment. Ça devient quasiment des choses familières dans la vie de tous les jours. Mais vous le dites, il n'y a pas que les cachets. Et on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur la fibromyalgie.
Loin de là, oui, tout à fait. La grande majorité des patients douloureux chroniques, en tout cas ceux qui sont suivis dans les centres spécialisés, reçoivent des médicaments, mais presque tous reçoivent d'autres traitements que les médicaments, car on sait très bien que les médicaments ne sont pas suffisants. Donc ils peuvent être utiles, ils peuvent permettre de contrôler une partie des douleurs, mais dans la très très grande majorité des cas, pour ne pas dire tous les cas, on y associe d'autres techniques non médicamenteuses. Ça peut être des techniques de type psychothérapeutique, ça peut être des techniques de médecine complémentaire, ça peut être des techniques dites de neuromodulation. On va utiliser des systèmes de stimulation électrique ou magnétique. Et toutes ces techniques-là vont être combinées, associées entre elles pour essayer de contrôler au mieux la douleur ou en tous les cas d'aider les patients à vivre beaucoup mieux avec elle. C'est exactement ce que disait Carole Robert. Donc on s'appuie énormément sur les techniques non médicamenteuses aussi pour aider les patients.
On va en reparler tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas certains malades, quand on leur propose ça, finalement, qui disent « vous ne me prenez pas au sérieux puisque vous ne me donnez pas de médicaments ».
C'est vrai, ça peut être une question qui nous est posée, mais notre travail, je dirais, c'est d'expliquer aux patients que la douleur chronique, c'est une douleur complexe, qu'on ne traite pas une douleur, mais qu'on traite une personne, qu'on traite un patient, et donc on va prendre en charge l'ensemble de la personne et pas seulement la douleur du pied, de la main ou du genou. Donc c'est tout le travail d'explication, d'information, d'éducation, même on parle d'éducation thérapeutique parfois, qu'on doit associer à la prise en charge.
Alors on va en reparler dans 3 minutes, juste après les informations. Docteur Didier Boissira, vous restez avec nous, on continue de parler de la prise en charge de la douleur. Vous pouvez nous appeler, le numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à la prise en charge de la douleur, toujours en compagnie du docteur Didier Boissira, neurologue, directeur de l'unité de recherche de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, auteur de l'ouvrage L'Anti-douleur, paru aux éditions du Cherche Midi. Dans la première partie de l'émission, docteur Didier Boissira, on a insisté sur l'identification des différents types de douleurs, étape indispensable pour leur prise en charge. Vous-même, vous travaillez dans une unité dédiée à la douleur. Pourquoi avoir créé ces structures spécialisées ?
Parce qu'on s'est rendu compte que la douleur chronique ou les douleurs chroniques demandaient une prise en charge tout à fait spécifique et encore une fois qui ne doit pas se limiter à la rédaction d'une ordonnance. On ne traite pas la douleur mais la personne et donc on doit prendre en charge tous les aspects autour de la douleur. On sait que la douleur chronique va avoir un impact sur différents aspects de la vie des patients. Ça peut toucher des choses comme le sommeil, ça peut toucher des choses comme l'humeur, l'anxiété, mais ça a un impact très global sur les relations avec les autres, etc. Bref, donc tous ces éléments-là vont eux-mêmes contribuer à maintenir la douleur. Donc, agir uniquement sur la douleur ne suffit pas. Il faut agir également sur tous les autres facteurs qui sont eux-mêmes impactés par la douleur pour essayer de avoir une prise en charge beaucoup plus globale, multifactorielle de la douleur.
Alors, diversité de cette prise en charge, on va revenir quand même au traitement par voie orale, docteur Didier Boissira. On en a eu l'illustration tout à l'heure avec notre auditeur Eladji. Si chacun d'entre eux a une action précise, ils peuvent aussi avoir des effets secondaires non négligeables.
Oui, bien sûr. Tous les médicaments peuvent avoir des effets indésirables non négligeables, y compris le paracétamol, le plus commun que nous avons tous dans nos boîtes à pharmacie. Quand il est pris en trop grande quantité, de façon inappropriée, il peut être dangereux. Il y a même certains pays actuellement qui se posent des questions sur la nécessité de revenir en arrière sur une distribution généralisée de ce produit.
Alors, des ressources chimiques, il y a aussi les ressources du cerveau, docteur Didier Boissira, ces ressources qui peuvent s'avérer d'ailleurs parfois même plus puissantes que les antalgiques avec les fameuses endorphines.
Oui, exactement. Les endorphines, en fait, ce qu'on a appris au cours des dernières années, c'est sans doute une des plus grandes découvertes dans le domaine de la douleur, c'est que notre cerveau disposait de systèmes très puissants de lutte contre la douleur, de systèmes qui sont aussi puissants que la morphine, finalement, et qu'il fabrique lui-même des substances qui ressemblent à la morphine, comme les fameuses endorphines. Et donc, beaucoup des traitements que nous essayons d'appliquer chez nos patients s'appuie sur ces systèmes de contrôle de la douleur qui sont disponibles dans le cerveau et il faut réussir à les réutiliser, à les réactiver si jamais on considère qu'ils ne fonctionnent pas bien. Et donc on a pour ce faire plusieurs types de moyens. Et encore une fois, oui, ce qui est très important de comprendre, c'est que beaucoup des traitements qu'on utilise s'appuient sur nos propres ressources, visent à utiliser nos propres ressources, ce qui veut dire, et peut-être nous y reviendrons, que le patient est un acteur de sa prise en charge. Ça, c'est très important à comprendre.
Alors, vous restez avec nous, docteur Didier Boissira. On va tout de suite rejoindre la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Et retrouver en ligne de Boisquier le professeur Aïe François Cani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de neurologie au CHU de Boisquier, chef du département des maladies du système nerveux à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Professeur Akani, pour quel type de douleur les patients viennent-ils vous consulter le plus fréquemment ?
Surtout, merci de nous associer à cette conversation sur la douleur. C'est plutôt les douleurs de type, les douleurs chroniques.
Est-ce que les patients viennent vous voir volontiers ou il y a une certaine retenue, une certaine appréhension à dire « j'ai mal, aidez-moi » ?
En fait, ces patients, après avoir suivi un long parcours en milieu traditionnel pour traiter une douleur chronique qui n'a pas de succès, le traitement n'a pas de succès, en ce moment, les malades se réfèrent à nous, neurologues, pour la prise en charge.
Est-ce que ça veut dire que parfois ils arrivent un petit peu tard ?
Ah, beaucoup. Ils arrivent, souvent ils arrivent très tard. Ce sont les gens qui traînent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et devant lesquels aucune ressource thérapeutique mais moderne n'a pu être essayée. Donc c'est pour cela qu'ils viennent nous voir pour apporter notre contribution pour les soulager.
Alors, professeur Ayé François Cani, comment se passent les consultations dans votre service ?
Alors, on reçoit toutes sortes de patients, et je dirais même les patients qui ont des douleurs aiguës, hein, qui viennent parce que... Mais surtout les patients présentant des douleurs chroniques. Et ils viennent de partout, de la traumato, de la médecine, des malades de toutes sortes. Et nous organisons justement la prise en charge de ces patients en faisant un tri, on essaie d'évaluer leurs douleurs, d'apprécier le retentissement sur leur vie quotidienne, sur le plan psychique, et en cela, on arrive à faire un diagnostic et tirer les patients pour un traitement plus adapté.
Est-ce que les traitements antidouleurs sont accessibles d'un point de vue financier en Côte d'Ivoire, professeur Akani ?
Non, enfin, je dirais oui, dans une certaine mesure, pour les médicaments classiques. Je parle des antalgiques, les analgésiques classiques, voilà. Mais quand on rentre dans le domaine des médicaments de troisième palier de l'EMS, c'est un peu difficile, c'est-à-dire la morphine, c'est accessible, mais parfois le coût, vous avez pratiquement 70% à 90% des patients qui ne sont pas pris en charge au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, puisque... Il n'y a pas d'assurance.
Il n'y a pas d'assurance santé, justement. Est-ce que ça ne les pousse pas à aller acheter ces médicaments en dehors des structures médicales, des pharmacies, quitte à justement prendre des choses qui sont foncièrement mauvaises pour la santé, professeur Akani ?
C'est vraiment le danger, puisqu'on voit piluler dans tous les marchés, dans tous les quartiers, des médicaments qui ne sont pas autorisés par l'État de Côte d'Ivoire, bien qu'il y ait une régulation de tous ces produits. Donc, on assiste pas mal à ce genre de mouvement vers ces médecines, ces médicaments de la rue. Voilà ce qu'on appelle dans nos jargons le médicament de la rue.
Le professeur...
Avec toutes les conséquences, la dépendance, les effets secondaires, l'impact que cela représente.
Professeur Akani, d'un point de vue global, est-ce que de votre point de vue, la question de la douleur est suffisamment prise en compte dans votre pays par les autorités sanitaires ?
Oui, puisqu'on fait de la santé, il y a des professionnels de la santé, des professionnels au niveau des centres en tout douleur. Donc on fait de la formation, on fait de la sensibilisation. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît bien justement l'existence de ces différents spécialistes dans la prise en charge de la douleur. Et de plus en plus, les efforts sont menés par l'ensemble, et les politiciens et les praticiens que nous sommes, et même les malades qui se mettent parfois en association pour pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens de souffrance morale, physique, même financière, puisque on en parlait tout à l'heure, c'est un coût, la douleur, c'est un coût financier. Il faut des moyens pour pouvoir soulager le patient douloureux.
Merci beaucoup, professeur Ayé François Akani, chef du service de neurologie au CHU de Bouaké. Très bonne journée à Bouaké, où vous nous écoutez sur 97.6. On vous retrouve, docteur Boissira. On va faire un petit retour en arrière. En début d'émission, on évoquait l'importance et la difficulté d'identifier, de quantifier les douleurs. On peut le dire que c'est particulièrement vrai pour un public particulier. Il s'agit des enfants et encore plus des bébés.
Oui, exactement. La douleur ne se voit pas. Donc, habituellement, on s'appuie sur le discours, sur le récit du patient, sur les mots qu'il utilise pour décrire sa douleur, pour essayer de la comprendre et pour essayer d'en trouver éventuellement la cause et d'adapter les traitements. Bien entendu, cette approche-là est beaucoup plus compliquée chez les patients non communicants au sens large. Il peut s'agir de bébés, comme vous le disiez, de jeunes bébés ou d'enfants, de jeunes enfants, ou à l'inverse, de patients handicapés à n'importe quel âge de la vie, ou des patients très âgés qui ont perdu cette capacité de communiquer. Et donc là, on est confronté au problème de l'identification de la douleur, et encore plus de sa quantification. Aujourd'hui, il n'existe pas de moyen objectif de mesurer la douleur, il n'y a pas un test de douleur, ça n'existe pas. Donc on doit s'appuyer sur l'analyse du comportement, par exemple, sur les dires de l'entourage, la façon, toute modification comportementale doit être analysée et éventuellement comprise comme étant un signe de douleur. C'est pas forcément de l'agitation, ça peut être à l'inverse un repliement sur soi pour un enfant qui se replie, qui n'a plus justement, qui ne joue plus avec ses amis, etc. Peut être un signe de douleur chronique.
Alors on va redonner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. On va tout de suite rejoindre le Cameroun, Douala, où c'est Valentin qui nous appelle. Bonjour Valentin.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, depuis très longtemps, j'ai des violents maux de tête. Je crois que violent, même, c'est un euphémisme. Et c'est généralement localisé sur un côté, avec une forte envie de vomir et un goût de métal dans la bouche. J'ai fait un examen une fois déjà. Le médecin n'avait trouvé rien de grave. Et il a prescrit des antidouleurs, c'est le paracétamol, le doliprane, tout ce qui va dans ce sens. Et généralement, je prenais deux cachets de 500 grammes et je me reposais 30 minutes à peu près dans une salle sombre, sans bruit, et ça allait. Bon, mais avec le temps, mon temps de repos aussi s'allonge parce que aujourd'hui, je dors 30 minutes, ça ne va pas, ça ne change pas. Il faut dormir 3 heures, 4 heures de quart à peu près. Là, ça m'inquiète beaucoup. Déjà, il faut que je précise que je suis myope depuis l'âge de 8 ans. Et je travaille devant un ordinateur de 7 heures à 19 heures à peu près.
Alors ce témoignage de Valentin, des maux de tête qu'il traite avec des médicaments, on peut dire, de consommation courante, assez légers, mais plus ça va, moins les pauses qu'il fait pour reprendre ses esprits se révèlent efficaces. Comment l'expliquer, docteur Bassira?
Déjà, c'est important de constater dans le témoignage de Valentin, c'est que ce qu'il nous décrit, c'est typiquement une migraine, hein, une douleur qui concerne la moitié du visage, qui s'associe à une gêne à la lumière, au bruit, sûrement quelques nausées et vomissements. Donc, on est vraiment face à un tableau, je dirais, typique de migraine. Et ces migraines, eh bien, il y a des traitements qui sont adaptés. Alors, les antalgiques habituels, hein, les produits notamment que prend Valentin peuvent être utiles, mais encore une fois, quand on les prend en trop grande quantité, eux-mêmes peuvent être nocifs. Donc il existe des traitements un petit peu plus spécifiques en théorie de la migraine, qui pourraient être intéressants d'essayer dans le cas de Valentin. Et il faut savoir que en plus du traitement de la crise, hein, de traitement de chaque crise de migraine, et quand ces crises deviennent trop fréquentes, comme ça semble être le cas ici, il peut être intéressant d'utiliser ce qu'on appelle un traitement de fond. C'est-à-dire un traitement qu'on va prendre non pas juste quand il y a la crise, mais un traitement qu'on va prendre tous les jours pendant plusieurs mois pour diminuer la fréquence des crises justement et leur intensité. Ces traitements de fond sont souvent très efficaces. Ils permettent de diminuer très sensiblement la consommation de médicaments. Donc je recommanderais à Valentin d'en discuter avec son médecin traitant. Ça peut être intéressant d'envisager un traitement de fond de sa migraine. Quant au lien avec la myopie, je ne crois pas que ce soit le cas.
Valentin, ces conseils du docteur Boissira, retournez voir votre docteur et éventuellement parler non plus simplement d'une prise en charge des crises, mais de la maladie, cette migraine en tant que telle. Merci beaucoup de cet appel de Douala. On va aller maintenant au Sénégal, à Saint-Louis, où nous appelle Ouli. Bonjour Ouli.
Bonjour Caroline, vous allez bien?
Ça va bien, je vous remercie, on vous écoute.
Moi, j'ai remarqué des douleurs au niveau du dos quand j'ai accouché il y a 2 ans et demi, par césarienne. Et depuis lors, je souffre. Quand je prends des mûres relaxants, ça va. mais après la plus de quelques jours, ça revient, les douleurs persistent. Aussi, je travaille dans une pharmacie. J'aimerais savoir si c'est lié à la station debout toute la journée ou bien c'est lié à la césarienne.
Alors, cette question de houli des suites de couches, hein, longtemps après, 2 ans après, est-ce qu'elle peut avoir encore des douleurs liées à cet accouchement ?
Oui, il peut rester des douleurs liées à l'accouchement. La césarienne elle-même, non, n'est pas la cause de ces douleurs, hein, bien entendu. Mais je dirais que dans ce cas, c'est très probablement lié plutôt à la station debout prolongée. Et donc, il faudrait effectivement essayer d'adapter éventuellement le poste de travail. Mais la césarienne en tant que telle n'est pas responsable des douleurs.
Voilà, Ouli, pour ces précisions du docteur Bouassira. Autre auditeur en ligne, c'est un appel de Djamena au Tchad. En ligne avec nous, Nelem, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, parce que bon, moi, mon problème, ça fait 2 ans que j'ai mal à l'oreille. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait le tour des hôpitaux. Ils ont fait les examens, tout ça, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont donné des produits et je pense que le médecin est en train de tâtonner. Et le problème de fois, quand je décroche un appel, je sens automatiquement mal à l'oreille, mes nerfs me font mal. Et ils m'ont donné des produits, tout ça, mais jusqu'à là, j'ai un problème avec mon oreille gauche.
Est-ce que les médecins vous ont donné un traitement pour soulager ces douleurs à l'oreille?
Si, effectivement. Ils m'ont donné ces deux points.
Des douleurs persistantes
à l'oreille. Des douleurs de l'oreille et des bourdonnements, hein, c'est ce qu'on appelle les acouphènes, hein, dans notre jargon. C'est malheureusement assez fréquent, c'est souvent compliqué à traiter. Ça répond pas aux antalgiques habituels, hein, donc on peut être amené, par exemple dans ces cas-là, à utiliser d'autres types de produits comme des antiépileptiques, par exemple, peuvent parfois être utiles. Et puis surtout, il faut essayer autant que faire se peut d'utiliser des techniques non médicamenteuses pour apprendre à gérer, à mieux contrôler ces bourdonnements et ces douleurs d'oreilles qui peuvent être extrêmement pénibles puisque ça persiste toute la journée. C'est un très gros retentissement sur la vie des patients en général.
Merci beaucoup Nelem pour cet appel du Tchad et un dernier auditeur avec lequel nous entrons en contact tout de suite, c'est Norbert. Il est en ligne de République démocratique du Congo de Kisangani. Bonjour Norbert.
Oh, bonjour Elfie.
On vous écoute.
En fait, je vous appelle depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kisangani. Et ça fait un peu longtemps que je souffrais des maux lombaires. Ça me fait tellement mal et ça me donne la fatigue souvent. Et des fois, une fois que si je dors, si élémenté pour me réveiller, s'il y a un problème, il faut beaucoup d'acrobatie pour me réveiller. Et si j'ai déjà allé à l'hôpital, dans la clinique universitaire ici, on m'a fait les examens, on m'a prescrit les médicaments. J'ai pris les médicaments. Jusqu'à là, il n'y a pas de changement. Mais on n'a pas précisé que non, il y a tel problème que tu es en train de souffrir. Et ça, on m'a donné juste les médicaments. Non, ça doit aller. Mais jusqu'à présent, hier, ça ne va pas.
Vous n'êtes pas soulagé. Est-ce qu'il y a certaines situations, Norbert, où vous souffrez plus que d'autres? Certaines positions, assis, allongé, debout, en mouvement?
Non, il n'y a pas de position. Je me sens juste fatigué. Donc, la fatigue générale.
Donc, Norbert, traité pour ses douleurs dans le dos et pourtant, rien ne vient le soulager, docteur Didier Bouassira.
Les douleurs du dos, ce qu'on appelle les lombalgies, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, de mieux partagé par l'espèce humaine. Donc, nous avons 70 à 80% de la population présente ce type de douleur à un moment dans sa vie. Elles sont très souvent compliquées à prendre en charge, elles aussi. Les examens, les scanners, IRM et autres ne donnent pas forcément la réponse. On pense que l'arthrose joue un rôle, mais c'est loin d'être le seul mécanisme. Donc là, je recommanderais encore une fois à Norbert de penser à des techniques plutôt non médicamenteuses, car on sait que les médicaments marchent relativement mal sur ce type de traitement. La kinésithérapie, la reprise de l'activité physique sont autant de méthodes qui peuvent être tout à fait utiles pour mieux contrôler ces douleurs du dos.
Voilà pour cette réponse, Norbert. Merci de votre appel de Kisangani. On a cité plusieurs noms de médicaments, des antalgiques, des antidouleurs. Docteur Didier Bouassira, ils sont quand même souvent associés au risque d'accoutumance et de dépendance.
Certains d'entre eux, oui, bien sûr. Et on connaît aujourd'hui le problème que connaissent les États-Unis, hein, avec ces effets secondaires majeurs liés à une surconsommation de produits dérivés de la morphine. Malheureusement, dans ce cas-là, c'est souvent lié au fait que ces produits ont été mal prescrits. La prescription n'était pas adaptée, les doses étaient trop fortes ou l'indication n'était pas respectée. Et donc, ça a conduit à des accidents très graves, puisqu'il y a eu des milliers de morts, hein, à cause de ce problème-là aux États-Unis. Heureusement, le problème n'est pas du tout le même en Europe et en France en particulier, où la prescription de ce type de produit est beaucoup plus encadrée depuis fort longtemps. Donc nous ne connaissons pas ce type de problème, en tous les cas à une échelle bien moindre, mais il est évident que les produits qu'on utilise dans le traitement de la douleur, en tous les cas certains d'entre eux, sont susceptibles d'entraîner des addictions et il faut être très prudent et ne pas les utiliser en automédication. Il faut toujours respecter la prescription du médecin, la dose et la durée du traitement.
Merci docteur Didier Boissira, on l'a compris, hein, certaines douleurs nécessitent des compétences conjuguées et comme si vous l'écrivez au début de votre livre L'Antidouleur publié aux éditions du Cherche Midi, la douleur n'est pas une fatalité, il faut aussi, c'est votre conclusion, accepter que dans certains cas, la douleur ne sera pas complètement soulagée.
Priorité santé sur RFI.
Une mobilisation pour réclamer davantage de moyens. C'est une grève mouvement unitaire inédit qui touche aujourd'hui les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, grève, manifestation. Malgré le déblocage de 50 millions d'euros concédé la semaine dernière par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, en ligne avec nous pour en parler. Catherine Sarrazin-Moine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Tu verras, tu seras bien », publié chez Yves Michel, un essai dans lequel vous témoignez sur les conditions du séjour de votre maman, aujourd'hui décédée, dans l'une de ces institutions médicalisées. Car ce malaise de la profession, des résidents, eh bien, et les familles aussi, toutes ces personnes en subissent parfois très dramatiquement les conséquences.
Oui, tout à fait, parce que j'oserais vous dire que c'est une cocotte minute où tous les sentiments sont partagés et à l'identique, c'est-à-dire d'abord la culpabilité qui engendre bien sûr, je dirais, un mal-être important, donc la peur, et qui nous fragilise tous, que ce soit nos aînés, les familles et certains personnels qui ont vraiment des ressources humaines qu'elles mettent à disposition de leur travail, et puis aussi, eh bien après, l'agressivité, qui est la porte ouverte à des maltraitances, petites ou grandes, physiques et ou verbales.
Parce que vous pointez en particulier la question du manque de personnel, hein, c'est une question aiguë. Justement, si on devait déterminer une revendication, une attente prioritaire, est-ce que ce serait celle-là, Catherine Sarrazin-Moine, que l'État change les quotas de personnel dans ce qu'on appelait avant les maisons de retraite?
Écoutez, ça n'est pas, je dirais, bien sûr que, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est un problème, on l'a rendu privé, ce problème-là, dans des univers assez clos. C'est un problème, bien sûr, politique, d'une détermination à prendre en compte cette génération chez nous du baby-boom, qui est une génération qui très souvent vieillit, mais vieillit justement avec de plus en plus de dépendance. Et ce qui est à considérer, c'est déjà un état d'esprit général, une mise à plat, effectivement, des moyens par rapport aux besoins de plus en plus importants. Mais c'est aussi considéré, moi je dirais que c'est éthique, c'est civique, c'est considéré que nos aînés, qui sont à la base du sujet, ont été aussi des citoyens qui ont fait se développer notre pays, qui ont aussi, si vous voulez, payé des cotisations pour leur vieillesse. Donc, parler d'argent, là, bon, ce qui va être débloqué, mais ça me semble pas être suffisant, parler d'un manque de personnel, oui, mais c'est un regard général sur notre société, et on n'a pas la médaille d'or dans le domaine, justement, de repenser cette génération-là, qui fait partie des 4-5 générations avec lesquelles nous devrions apprendre le bien vivre et le bien vivre, le mieux vivre dans ces établissements.
Vous dites que la négligence finalement à laquelle on peut parfois assister dans ces établissements, elle reflète une certaine négligence de la part de la société par rapport à ses aînés.
Absolument. Et elle l'a relégué uniquement aux familles. Les familles doivent porter tout ça. Eh bien non, c'est toute une réflexion d'une société, et vous savez très bien que dans des pays nordiques, au Canada et bien ailleurs, et dans des civilisations qui vivent plus simplement que nous, l'aîné est un sage. Le savoir prendre soin de l'aîné ne se discute pas par des spécialistes, c'est naturel.
Au Québec, on dit l'âge d'or au Québec. Hein. Catherine Sarrazin-Moine, vous travaillez, vous êtes maintenant bénévole dans ces établissements. C'est justement un petit peu pour exorciser la peine que vous avez eue avec l'expérience, avec votre maman ?
Peut-être en partie, mais d'un autre côté, je souhaite vraiment être présente auprès justement de nos aînés, d'apporter un petit peu d'oxygène, et nous sommes très nombreux, mais aussi parce que cet établissement-là, il y a quelques établissements dans lesquels il y a un peu d'humanité. Ça tient aux directions, ça tient au personnel, ça tient à, je dirais, au fait que ce ne sont pas des entreprises de 100, 150, 200 personnes concentrées. Et c'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir partager, avoir créé un atelier de lecture, d'avoir été accueillie. Et c'est peut-être un des établissements, j'aurais souhaité que ma mère puisse être acceptée, mais il n'y avait pas de place à l'époque. Parce que là aussi, c'est un problème. La place, dans l'urgence, souvent, l'enfant ou le proche décide d'un placement parce que le retour à la maison après une xième hospitalisation n'est pas forcément possible. Et avec ma sœur, nous avons eu beaucoup de peine à trouver un établissement qui nous parlait, et nous avons eu la possibilité de signer un contrat juteux, très prometteur, pour notre mère, mais dans un établissement privé lucratif.
Merci pour toutes ces précisions, Catherine Sarrazin-Moine. Ce témoignage, je rappelle le titre de votre livre, Tu verras, ce sera bien, aux éditions Yves Michel. Notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour prépare et fabrique votre émission. Demain, on va évoquer avec nos invités la crise de l'hôpital public après la tribune publiée il y a 2 semaines pour alerter sur les conséquences de la rigueur sur la qualité des soins. Pour nous joindre, le numéro 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.